Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, Agnès Varda sur son petit nuage. La réalisatrice de La Nouvelle Vague, la vieille dame facétieuse, la compagne de Jacques Demy, le personnage à la drôle de coiffure, documentariste, photographe, conteuse, inventeuse. À 90 ans, Agnès Varda est morte chez elle cette nuit. Artiste majeure, une grande partie de ce journal de 13h lui sera consacrée, avec Eva Bétan et Corinne Pellissier à mes côtés, avec Serge Toubiana, ancien patron de la Cinémathèque. Varda vu des États-Unis aussi avec Grégory Philips. Nous irons rue Daguerre et même à la plage avec Agnès.
Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens.
Second marker.
Je les ai filmés ou pas, compris ou pas, admirés.
Adieu Agnès Varda, ce sera l'essentiel de ce journal de 13h. Nous entendrons évidemment d'autres extraits de films et sa voix, les autres titres de l'actualité. Algérie, combien de personnes dans la rue? Nouveau vendredi de mobilisation contre le système. Le Brexit et la tentative désespérée de Theresa May de faire passer son accord, peu de chance. Arjo Wiggins, liquidation judiciaire. Et puis la redevance audiovisuelle vit-elle ces derniers jours? Gérald Darmanin à Bercy plaide pour sa suppression. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et Météo France nous annonce un week-end ensoleillé.
Oui, déjà cet après-midi se passera le plus souvent sous le soleil, avec quand même quelques cumulus de beau temps qui vont se développer sur un large quart nord-ouest et sur le relief, et les températures sont plutôt douces, 15 à 20 degrés en général, jusqu'à 22 voire 23 degrés, et demain sera encore plus doux et encore plus ensoleillé.
A tout à l'heure pour d'autres détails. Le 13h d'Agnès, vous avez le programme, c'est parti. Connaissez-vous beaucoup de cinéastes, a fortiori femmes, qui aient triomphé dans les quatre grands festivals? Lion d'Or à Venise, Palme d'Or à Cannes, Oscar d'honneur à Hollywood, César du meilleur film documentaire à Paris et Berlin. Agnès Varda était une grande artiste reconnue internationalement. On se sent obligé de le rappeler parce qu'elle avançait avec tellement de simplicité, de modestie, de discrétion. Écoutez comme elle parlait de ses films.
En tout cas, je sais que les gens qui m'arrêtent dans la rue, ils me disent pas bravo, ils me disent merci. Et beaucoup de gens me disent « Vos films sont rentrés dans ma vie. Vos films sont rentrés dans la famille. » Je crois qu'il y a, dans ce que je fais, assez d'affection vers les autres pour que j'ai en retour de l'affection. Je me sens très aimée. Je n'ai pas fait carrière. La plupart de mes films ont été des semi-flops. Il y en a un qui a été un succès, c'est Saint-Antoine Ilois. Mais sinon, c'est des petites sorties moyennes. On ne rapporte pas d'argent très souvent à Tamarisson. On fait des opérations blanches, comme on dit. Mais alors, par contre, chaque film déclenche de l'affection à mon égard, de l'amitié pour ce que ça représente d'être cinéaste, et même de l'intérêt pour les gens que j'ai filmés.
Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
Agnès Varda, en 2017, c'était à votre micro à l'occasion de la sortie de Visage Village qu'elle avait tournée avec J.R., qui est en ce moment autour du Louvre, hein, l'artiste J.R. Eva, voyons ça avec vous. 60 ans de cinéma, Agnès Varda, qu'est-ce qu'on retient? Quel est le plus important?
J'ai envie de dire, vous pouvez prendre le côté factuel. Le plus important, c'est qu'elle a annoncé la nouvelle vague avec la pointe courte, qu'elle a fait 60 ans de cinéma. On peut les détailler, on y viendra. Le plus important, c'est ce qu'elle dit là. C'est qu'elle est une des plus grandes cinéastes, hommes et femmes confondus. Et en même temps, elle est peut-être la seule à avoir eu ce rapport-là avec les gens. C'est-à-dire être aimée au double sens du terme. Ses films sont aimés au sens apprécié et ils sont aimés au sens d'amour. C'est une chose assez extraordinaire parce que il n'y a aucune démagogie dans son cinéma. Elle a commencé comme photographe, elle était très proche de Villard, elle a pris de lui ce côté... On veut le plus haut pour le plus grand nombre. Mmh. On respecte notre public et donc on lui beaucoup. Elle n'a jamais transigé
l'élitisme
là-dessus.
L'élitisme pour tout le monde.
Et oui, cette phrase de vitesse, elle l'a reprise à son compte. Il y avait ça et elle a toujours innové tout le temps. Et en même temps, il s'est passé à un moment donné, c'est peut-être pas dès le début, je situerai ce tournant que je trouve extraordinaire au moment des glaneurs et de la glaneuse, qui est un documentaire qu'elle fait en 2000. Et avant qu'on emploie l'expression SDF, que ça devienne un mot que nous connaissons tous, elle va filmer les gens qui ramassent ce qui reste dans un champ. Des pommes de terre qui ne sont pas, même pas ramassées parce qu'elles sont jugées moches. Elle est précurseuse, elle parle de la pauvreté, elle parle du gaspillage, elle le fait d'une manière très humaine. Il y a une dignité dans la manière de filmer les gens. Quand elle filme quelqu'un qui ramasse des restes de marché, cela, elle les filme de loin. Elle va elle n'est pas voyeuse. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je suis allée chez elle plusieurs fois. Mmh. On continuait à lui envoyer du monde entier des pommes de terre en forme de cœur, des pommes de terre moches. Ça, c'est formidable parce que si vous prenez sa filmographie, c'est ce lien qui s'est créé, qui avait commencé déjà avec Saint-Ouen-Illois. Elle fait 1 million d'entrées avec l'itinéraire d'une routarde, ce qui est assez incroyable. Donc Agnès Varda, c'est ça. Une immense cinéaste, une artisane et quelqu'un d'aimé.
Bonjour Serge Toubiana. Est-ce que Serge Toubiana est avec nous ? Ancien directeur de la Cinémathèque, bonjour.
Bonjour.
On va redétailler tout cela avec vous, l'aspect cinéma notamment. Je voudrais d'abord, Serge Toubiana, qu'on écoute un extrait d'un film emblématique, Le Ton Nouvelle Vague. Cléo de 5 à 7, c'était en 61, c'est ça,
62,
Eva ?
Je crois.
62. Alors Cléo, jeune et belle chanteuse, frivole, elle a peur d'être atteinte d'un cancer, elle attend les résultats des examens.
J'ai vu le cancer, elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerai.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime.
C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix.
Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser.
C'est un cri d'amour. Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me devrais...
Je t'interdis.
Toutes portes ouvertes.
Et voilà ce qu'Agnès Varda disait de ce film Cléo de 5 à 7.
C'est un film que je revendique beaucoup parce qu'il raconte une histoire émouvante d'une femme qui a peur de la mort. Mais il est surtout structuré, il est surtout difficile, il est construit dans un temps réel, dans une géographie réelle. Je me suis donné des contraintes, et dans ces contraintes, je voulais qu'on sente l'émotion de Cléo, magnifique Corinne Marchand qui a fait ça très très bien. Mais je veux dire que c'est comme un défi que je me suis donné, est-ce qu'on est capable de faire passer de l'émotion dans une structure aussi répressive de la géographie réelle et du temps réel ? C'est ça qui m'intéresse.
Alors Serge Toubiana, on a commencé en entendant Agnès Varda parler très simplement. Là, elle parle technique de cinéma. Varda et la nouvelle vague, comment elle s'inscrit ? Qu'est-ce qu'elle a apporté à cette nouvelle vague ?
D'abord, elle l'a devancée. Elle avait anticipé la nouvelle vague, puisqu'elle a fait son premier film, La Pointe Courte, en 54, je crois, avec des moyens très limités, et puis surtout une audace. Elle s'est lancée dans le cinéma, alors qu'elle venait de la photographie, et elle a réussi son premier coup, et c'est un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma, comme effectivement le début d'un cinéma féminin, on pourrait dire, mais elle a accompagné, elle était très liée à Jean-Luc Godard, elle a évidemment rencontré Jacques Demy, elle était proche de toute la nouvelle vague, mais elle était un petit peu sur la rive gauche, comme on disait, elle était très proche d'Alain René, avec qui elle a appris le montage. C'était une figure, elle était indépendante, donc si vous voulez, on peut pas la classer dans un mouvement collectif parce que elle était plus libre peut-être que les autres, elle s'émancipait plus facilement, elle n'avait pas besoin de maître ou de référence, elle traçait sa ligne, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'elle l'a continué jusqu'à ça. Il y a un mois, quand elle a montré son film à Venise, son dernier documentaire, elle traçait sa voie, et d'une certaine manière, c'est cette audace et cette liberté qu'on lui reconnaît et qu'on admire beaucoup chez elle et que les Américains admirent. Parce que moi, je me souviens, j'étais à Los Angeles en novembre 2018.
Oui.
Pour le jour où elle a reçu ce Governor's Award, qui est un Oscar pour la carrière, c'était bouleversant parce qu'il y avait tous les grands cinéastes américains étaient là. Spielberg a fait un discours en hommage à Agnès Varda. Elle a reçu cet Oscar d'honneur de la main de grandes actrices américaines qui lui vouent un culte incroyable. Elle incarne une sorte d'icône, si vous voulez, d'icône à la fois parce qu'elle est une femme et une précurseur.
Alors c'est ça que je voulais soumettre à Eva Bétan, si vous permettez, Serge Toubiana. Oui, figure féministe, vous diriez cela, Eva ?
Oui, mais je dirais comme tout à sa manière. Quand elle fait la pointe courte et qu'on lui dit « Ah, après une femme », elle dit « Non, non, moi je voulais d'abord tenter quelque chose de radical. Vous n'allez jamais arriver à l'enfermer quelque part. » Elle a été, que je veux dire, elle est féministe et d'une certaine manière, entre guillemets, politique au sens large du terme. C'est-à-dire que quand elle fait une chant de l'autre pas, elle parle d'une femme qui va avorter, l'avortement est clandestin. Elle avait signé le manifeste des 343 des femmes qui disaient j'ai avorté. Mais elle fait un cinéma extrêmement subtil. Elle fait pas un manifeste. Agnès Varda ne fait jamais de manifeste. Elle est féministe dans sa manière d'être. Elle est féministe naturellement dans la manière dont elle peint les femmes, dans son rapport à la liberté.
Serge Toubiana, un mot sur ce tournant dont parlait Eva tout à l'heure, les films de la Nouvelle Vague et puis les documentaires plus récents.
C'est-à-dire qu'elle, d'abord, elle a fait des documentaires, elle a fait des films de fiction. Pour elle, la frontière était assez floue, elle passait de l'un à l'autre, d'un genre à l'autre. C'est vrai que le film, je me souviens, à Venise, pour Santoine Hillois, elle avait le Lion d'Or. C'était une soirée magnifique. Elle était venue, elle avait fait une fête sur la place de Venise, du Lido. Elle avait amené elle-même son vin, elle avait amené elle-même sa nourriture. Elle avait fait... Tout était artisanal chez elle. Elle apportait le bonheur aux autres, mais elle était elle-même, elle incarnait ce bonheur. Ce bonheur, c'était la simplicité, la curiosité, le contact avec les autres. Elle avait ce talent-là, inné chez elle, d'accueillir l'autre, mais aussi de le filmer et de montrer aussi la difficulté des gens pour vivre. Eva Bétan a parlé des glaneurs et des glaneuses. Mmh. C'était un film qui a changé son image. Les gens venaient rue Daguerre, lui apportaient des cadeaux, lui étaient reconnaissants parce que elle parlait d'eux, mais elle parlait d'eux avec art et avec simplicité. Ce qui faisait qu'elle rendait les gens, je dirais, plus beaux, plus rayonnants, plus intelligent,
noble.
Plus noble, exactement.
Allez, un autre témoignage, si vous le voulez bien, Serge Toubiana, sur Agnès Varda. Corinne Pélissier est également à mes côtés. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour.
Alors Agnès Varda avait un cancer, elle avait 90 ans, mais elle restait relativement active toutes ces dernières semaines. On vient de l'entendre et vous l'avez suivie. Racontez-nous, Corinne.
Bah, Agnès Varda, toujours avide de rencontrer les autres, mais qui s'était fait plus rare ces dernières semaines. Quelques apparitions publiques pour le lancement à la Cinémathèque d'une grande rétrospective consacrée à ses films. C'était au mois de janvier. Le festival de Berlin aussi au mois de février où elle était venue présenter un documentaire, ses inspirations, son travail, Varda par Agnès, une sorte de film testament en deux parties qui est disponible en replay, on le signale, jusqu'au 16 mai sur le site d'Arte. La chaîne avait diffusé il y a quelques semaines ce documentaire, des causeries entre installations, masterclass, extraits de films. Pour commencer, elle avait expliqué au moment de la conférence de presse à Berlin à dire au revoir, à partir, un besoin de ralentir, de trouver la paix nécessaire. Écoutez-la. C'est une façon pour moi de dire au revoir. Je ne veux plus parler de mes films. Je ne peux plus parler de mon travail ni décortiquer mon œuvre. Je l'ai déjà fait tellement de fois. Je me suis énormément raconté dans mes films. Si vous prenez les 5 derniers, tout est dedans. J'ai parlé de moi, j'ai parlé de mon cinéma, de mes souvenirs. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et comme vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est de parler des autres.
Voilà, c'est bien d'entendre parler anglais.
Qui se battait depuis plusieurs semaines, vous l'avez dit, contre la maladie, avait été très affectée en début d'année par la disparition de Michel Legrand, avec lequel elle avait partagé une vie entière d'aventures artistiques, d'amitié, Les Demoiselles de Rochefort avec son mari Jacques Demy. Puis il avait composé pour elle la musique de son film Cléo de 5 à 7, des moments forts qu'elle évoquait en janvier dernier au Théâtre Marigny lors d'un vibrant hommage.
Parler à côté du cercueil de Michel, c'est un peu difficile, voilà. Mais très récemment, nous étions ensemble dans le bar d'un théâtre où Macha Meryl avait joué. Michel et moi, on s'est tenus à l'écart, on s'est tenu la main très longtemps. Et j'ai eu l'impression, j'ai senti qu'il replongeait avec moi dans ces années de sa grande amitié, de son travail avec Jacques Demy.
Voilà, la fin d'un cycle, d'une histoire, le début d'un autre aussi, les années 2000, qu'elle avait embrassé avec une gourmandise presque d'adolescente, aux côtés du street artiste JR, multipliant les collaborations, faisant aussi les pitres un petit peu sur Instagram. Une amitié joyeuse, vivifiante, dont était né ce film, Visas Village.
Ah oui, je suis toujours partante si on va vers des villages, vers des paysages simples, vers des visages.
Un documentaire qui avait rencontré un vif succès partout dans le monde, présenté officiellement au Festival de Cannes en 2017 et récompensé dans la foulée d'un Oscar.
Et on écoutera peut-être un autre extrait tout à l'heure. Je voudrais qu'on aille rue Daguerre d'abord. Delphine Evenou, vous êtes avec nous. Rue Daguerre, le quartier, la maison d'Agnès Varda. Que dit-on à 13h14, là, voilà, quelques minutes, un peu plus, après l'annonce de son décès?
Des hommages recueillis, évidemment, Bruno. Les gens prennent quelques minutes, en fait, de silence pour repenser à la présence d'Agnès Varda dans ce quartier. Elle habitait une sorte de petite maison aux parois d'un rose chaud, un atelier en fait, ancienne boutique d'encadrement où elle s'était installée au début des années 50. Jacques Demy, son grand amour, l'a rejoint ici en 58. Des fleurs sont posées ici devant la porte colorée, rayée de la maison d'Agnès Varda. Daniel tient un petit théâtre à quelques rues de là. Elle a tenu à rendre hommage à son ancienne voisine.
Ça, c'est sûr qu'elle est complètement intégrée au village et voilà, on a appelé ici le village d'Aguerre et elle y est pour quelque chose, quoi. Et à la fois pour sa façon d'habiter le lieu et puis ce qu'elle mettait dans ses films, hein, comme la transposition de son sens de la cité. Tout ça, elle savait si bien le mettre dans ses films et en même temps montrer dans le plus simple du quotidien comment il y a de l'esthétique. C'est ça, pour moi, si intéressant.
Et Agnès Varda adorait ce quartier. Elle avait d'ailleurs réalisé un documentaire en 75 d'Aguerréotype. Elle interrogeait les habitants, les commerçants du quartier dans la limite, expliquait-elle, des 90 mètres de câbles électriques qui étaient branchés dans son atelier. De cette époque, il ne reste que l'épicier et le marchand d'accordéon. La réalisatrice observait sans juger, à sa façon qu'on connaît bien, la mutation de la rue d'Aguerre, les populations plus aisées qui ont pris la place des ouvriers, des petites usines de la rue Froidevaux à côté qui venaient prendre leur déjeuner dans leur café du quartier. Elle restait viscéralement attachée à cette rue très parisienne, même si elle aimait à dire qu'elle habitait Paris 14 et non Paris.
Toujours avec nous. Merci beaucoup Delphine Evenou pour ces échos de la rue d'Aguerre. Serge Toubiana, ancien directeur de la Cinémathèque, vous êtes toujours avec nous. Cette oui. rue d'Aguerre, cette famille, ce climat autour d'Agnès Varda, que peut-on en dire?
J'ai beaucoup aimé aller chez Agnès et chez Rosalie aussi. C'est parce que Rosalie a un rôle de la fille d'Agnès. Mmh. Mathieu Demy vit à Los Angeles. Après, voilà, il a choisi l'Amérique. Mais Rosalie a un rôle essentiel. Elle a accompagné Agnès jusqu'à hier. Elle lui a permis aussi d'avoir cette énergie pour faire des films. Moi, quand j'allais chez Rosalie et chez Agnès, c'était une sorte de phalanstère très féminin. On était très bien reçus, il y avait des chats, on buvait le thé, et puis Agnès parlait, elle nous parlait, elle était curieuse de tout, elle nous posait des questions, et puis on la faisait parler. Moi, j'ai adoré la faire parler parce que...
Ça ne devait pas être difficile.
Non, mais si vous voulez, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est qu'elle parlait du passé, bien sûr, elle parlait de Jacques Demy, bien sûr, avec beaucoup d'émotion, mais elle était dans le présent, Agnès. C'est ça que j'admirais beaucoup. Elle était dans le présent. Il y avait toujours quelque chose en train de se faire, un film en train de se faire, de se tricoter, parce qu'elle montait ses films elle-même. Enfin, elle savait tout faire. Donc.
Corinne Pellissier.
Justement, elle était aussi visuelle artiste, elle adorait ce terme, et hier encore, elle était à Chaumont-sur-Loire, où elle était en train de préparer l'installation qui va ouvrir ses portes dès demain, dans le cadre du festival
des jardins.
Des jardins de Chaumont, et elle avait préparé toute une installation qui s'appelle 3 pièces sur cour, qui sera visible pendant les prochaines semaines.
Eva Béton.
Alors sa maison,
la rue d'Aguerre.
Elle racontait que quand elle avait acheté, d'abord c'était un tout petit truc, sa famille lui a dit mais c'est horrible, qu'est-ce que c'est ça. Puis elle s'est étendue un peu plus, et il y a une cour, et puis il y a c'est juste sur un niveau, c'est à la fois modeste et formidable. Et quand vous baladez avec elle, elle vous dit, mais d'une manière joyeuse, c'est là que Michel Legrand et Jacques ont travaillé sur le doigt de Rochefort, c'est là ceci. Donc il y a plein de souvenirs, et comme disait Serge Toubiana, c'est en même temps totalement au présent. Parce que tout se fait là, il y a la cuisine, elle fait la cuisine, il y a la salle à manger où il y a plein de pommes de terre, au bout d'un moment elle en pouvait plus de recevoir des pommes de terre. Et il y a la salle de montage des films, à un moment donné elle louait une boutique en face pour faire le montage. Quand elle fait des DVD... C'était là aussi un produit fini. Elle avait travaillé tout. C'est-à-dire qu'elle avait un respect des gens. Tout devait être bien fait. Tout.
Les hommages depuis ce matin, évidemment, il y en a beaucoup. Alors l'hommage classique, Franck Riester, bouleversé, accablé, endeuillé. Nous venons de perdre une des plus grandes artistes de notre époque, dit le ministre de la Culture. Hommage aussi de Claude Lelouch, le cinéaste qui rend justice à la diversité des talents d'Agnès Varda.
C'était un grand photographe au départ, et donc les deux se marient tellement bien que je pense qu'elle a été ce lien formidable entre la photo et le cinéma, ça c'est important, et qu'elle a montré les vertus de l'un et de l'autre. Elle n'a jamais renié la photo, jamais renié le cinéma, et montré que c'était deux arts complémentaires, et elle a pratiqué ça toute sa vie. Voilà. Et puis surtout, elle a parlé de choses essentielles. Les femmes lui doivent beaucoup, tous les combats des femmes doivent beaucoup à Agnès Varda. Elle a été une des premières, justement, à mener tous ces combats. Je me rappelle quand j'avais fait La Bonne Année, où le personnage de Françoise Fabian était aussi une femme qui voulait aller de l'avant. Elle m'avait appelé et elle m'avait dit qu'elle avait été très touchée par ce film. Bon, on s'est souvent rencontrés pour se dire des belles choses, voilà. Elle était curieuse des films des autres, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que à cet âge-là, on perd beaucoup de copains, surtout cette année, depuis Michel Legrand, tout ça, Francis Lay. Ça commence à faire beaucoup.
Voilà. Très touchant, Claude Lelouch. On se rencontrait pour se dire des belles choses. Serge Toubiana, la diversité des talents d'Agnès Varda, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Photographe, plasticienne, à la fois la fiction et le documentaire, elle savait faire beaucoup de choses.
Oui, elle savait tout faire. Elle faisait tout à la main. C'est vraiment comme une couturière. Elle avait le goût de l'artisanat. Elle avait le goût des moyens limités parce qu'elle n'a pas toujours eu les moyens de faire ce qu'elle voulait. Elle a eu un succès sur la durée, elle a eu une reconnaissance sur la durée, mais lui est arrivé d'avoir beaucoup de mal à faire ses films, à les produire, à les financer. Elle a vraiment gagné son combat parce qu'elle s'est imposée comme une artiste majeure dans le monde entier. Elle a été une voyageuse incroyable. Moi, j'ai été en Chine avec elle, c'était bouleversant. En 2004, on a montré des films, des films à elle, et je me souviens d'un moment absolument bouleversant. On était dans la grande salle de 1200 places de la Cinémathèque chinoise, on préparait une projection, et puis on s'affairait parmi les rangs, des fauteuils, et puis il y avait un essai d'un film, de son film sur Jacques Demy. Elle a entendu la voix de Jacques Demy, elle s'est évanouie. Elle est tombée devant moi. Elle s'est évanouie d'émotion à juste entendre la voix de Jacques Demy sur l'écran. Je me suis penché vers elle, je lui ai donné quelques gifles pour la réveiller, et j'ai vu, elle est revenue de là où elle avait peut-être, je sais pas, envie de retrouver son Jacques. C'était bouleversant, et on a continué à vivre et à voyager. On a été faire les boutiques de DVD pirates, elle a vu que ces films étaient là vendus de façon pirate, comme les films de Jacques Demy, comme les films de Robert Bresson, comme les films de Jean-Luc Godard ou de François Truffaut. Tous les gens qu'elle admirait ont trouvé les films à un euro sur le marché noir chinois.
Merci. Non, il y a une chose qui est très intéressante. C'est quand même temps.
Parce que je voudrais qu'on aille aux États-Unis.
Vous rentrez chez elle et toute la maison, elle dit entre ici les gens qui aiment Jacques Demy. Voilà, c'est déjà le début. Mais quand Jacques Demy meurt, elle est en train de monter le film Jacques de Nantes qui parle de lui. Elle a les larmes qui coulent et elle dit qu'en même temps, elle est une CA, c'est qu'elle fait le montage. Voilà, c'est ça.
Bonjour Grégory Philips.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter aux États-Unis, Agnès Varda aux États-Unis. Qu'est-ce que ça représente? Qu'en dit-on aujourd'hui?
Alors écoutez, ce matin, le Hollywood Reporter salue la mémoire d'une pionnière et le magazine Variety écrit que Agnès Varda était tout simplement la figure de proue de cette nouvelle vague française. Il faut dire que ici aux États-Unis, la réalisatrice est adulée, vous l'avez dit, par toute une génération de réalisateurs, de Steven Spielberg à Martin Scorsese. Et il y a un an et demi, Hollywood lui avait remis un Oscar d'honneur. Elle a été la première réalisatrice ainsi récompensée. Nous sommes le 11 novembre 2017 et c'est l'actrice Angelina Jolie qui remet la statuette dorée à Agnès Varda.
My film never made money and I'm not bankable.
Mes films n'ont jamais fait beaucoup d'argent et je ne suis pas bankable, comme on dit.
If not money, I got many awards.
Mais au moins, faute d'argent, j'ai eu beaucoup de récompenses, such as comme par exemple la Palme d'Honneur.
And later, because I became older,
et plus tard, plus je suis devenue vieille, plus j'ai commencé à recevoir des récompenses pour l'ensemble de ma carrière.
Here, in la Mecca.
Mais ici, dans la Mecque du cinéma, Hollywood, j'ai reçu la plus belle, cet Oscar d'honneur. Merci. J'ai l'impression de danser. La danse du cinéma.
Agnès Varda était revenue à Los Angeles l'année d'après avec une nomination aux Oscars pour son documentaire Visage Village co-réalisé avec JR. Varda et Hollywood, c'était une très belle histoire d'amour, Bruno. Et la presse américaine salue aussi ce matin son engagement féministe en pleine période MeToo.
Merci beaucoup Grégory Philips en direct de Washington. Un grand merci à Serge Toubiana qui nous a accompagnés tout au long de ce journal de 13h et à mes deux complices Eva Bétan et Corinne Pellissier qui étaient à mes côtés. Les hommages à Agnès Varda vont évidemment continuer sur l'antenne de France Inter et sur franceinter.fr. En particulier ce soir, nous rediffusons à 20h l'heure bleue, l'entretien Laure Adler, Agnès Varda. L'émission date du 4 mars dernier seulement. Et puis France Inter vous ouvre à vous, amateurs de cinéma, amateurs de son, d'images et amoureux d'Agnès Varda, vous ouvre un répondeur dès maintenant pour vos hommages et vos commentaires. 01 56 40 68 68. 01 56 40 68 68.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Les autres grands titres de l'actualité, cette question, la promesse d'écarter Abdelaziz Bouteflika, suffira-t-elle à convaincre les manifestants que le système les a entendus? C'est le sixième vendredi de contestation dans les rues d'Algérie. Mathilde Dehimi, vous êtes en direct d'Alger avec Gilles Gallinaro. Quelle mobilisation?
Eh bien Bruno, la foule converge de partout vers la Grande Poste. Le point central, les rues ne vont pas tarder à être complètement saturées autour de nous, alors que la manifestation officiellement vient seulement de commencer. C'est vrai qu'on se demandait si les propositions de l'armée de démettre Abdelaziz Bouteflika allaient tarir cette foule, mais c'est bien le contraire. Première manifestation pour Iba, venue de Marseille.
Je ressens beaucoup d'émotion. On ne peut pas rester comme ça, parce que ça fait des années que ça dure. Les gens sont en souffrance, ne disent rien, plus bas que ça, on ne peut pas.
Partout des slogans pour changer tout le système. On sait le faire, explique Mahmoud, avec d'abord, dit-il, la démission du président, du gouvernement, des assemblées, puis la mise en place d'un gouvernement de transition.
Par exemple, les magistrats, les syndicalistes autonomes, les enseignants universitaires vont élire un représentant. C'est trois qui vont piloter cette période de transition. Ils vont désigner une commission qui sera chargée d'écrire la constitution.
Suivront alors, poursuit-il, des élections sincères, mais tout ça prendra plus de temps que les 3 mois proposés par l'armée. On a tout le temps, dit Amina.
S'il le faut passer 6 semaines ou 10, on n'abdiquera pas. On va résister jusqu'au bout, jusqu'à ce que les 40 voleurs partent. Et pour le moment, personne n'a bougé. Il n'y a pas que Gaïd Salah. Et j'ai confiance totale en l'armée algérienne et c'est ce qui compte.
Le chef d'état-major qui est à son tour devenu la cible de l'humour mordant des Algériens. Sur une pancarte, Ahmed Gaïd Salah tient sur ses genoux une marionnette Bouteflika avec écrit « Oscar de la meilleure manipulation politique ».
Merci Mathilde Dehimi en direct d'Alger avec Gilles Gallinaro. Un chiffre, le taux de chômage en Allemagne, il est en ce mois de mars à 4,9%, c'est son plus bas niveau depuis la réunification. Le Brexit, il y a une seule certitude, ce devait être aujourd'hui, 29 mars, ce sera pas le cas. Pour le reste, les députés à Londres se prononcent à nouveau tout à l'heure sur un texte de divorce qu'ils ont déjà rejeté 2 fois. Argument supplémentaire pour éventuellement l'adopter, Theresa May promet qu'elle partira s'il est adopté, auquel cas le Brexit se déroulerait avec retard, mais dans un certain ordre, le 22 mai. Toute autre hypothèse relève d'un certain chaos. Louise Baudet, vous êtes en direct de Londres. Quels sont les derniers échos en cette journée importante, une de plus?
Oui, journée importante et climat plus apaisé. Banc clairsemé, il faut le dire, c'est l'heure du déjeuner à la Chambre des communes où le débat s'est ouvert dans une toute autre ambiance peu après 9h30.
Order! There we go!
Allez, c'est parti, annonce le speaker John Bercow. Dans l'atmosphère frontale de la chambre où conservateurs et travaillistes se font face, l'attorney général Geoffrey Cox ouvre les hostilités.
Aucun nouveau délai n'est garanti. Nous sommes donc face à un choix essentiel pour l'avenir de cette nation et j'exhorte tous les membres de cette Assemblée à saisir cette opportunité maintenant.
Un débat souvent orageux sur un texte tronqué, la déclaration politique qui préfigure les relations futures avec l'UE a été mise de côté, inconcevable pour les travaillistes qui refusent de voter le Brexit, les yeux bandés. Côté conservateur maintenant, certains récalcitrants se sont ralliés comme Ian Duncan Smith, l'ancien leader du parti.
Ce n'est pas une décision facile pour moi car beaucoup de choses me déplaisent dans ce texte. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais si nous voulons tenir notre promesse de représenter 17 400 000 Britanniques, alors nous devons leur apporter ce qu'ils ont demandé, c'est-à-dire quitter l'Union européenne. Et voter l'accord est le seul moyen d'y arriver.
Toutefois, nombre de Tories jugent toujours l'accord trop conciliant avec l'Union européenne. Et puis, ce sera sans les députés nord-irlandais du DUP, 10 voix pourtant indispensables à Theresa May, qui prononcera tout à l'heure en clôture le discours le plus important de son mandat. C'est la presse britannique qui le dit.
Louise Baudet en direct de Londres. En France, gilets jaunes acte 20 ce week-end et des mesures de prudence toutes particulières prises à Bordeaux. Des arrêtés interdisant les manifestations dans certaines rues de la ville. Risque avéré de dégradation et de violence, estime le maire. Arjo Wiggins, la liquidation judiciaire est actée pour la papeterie de la Sarthe. Le tribunal de commerce a prononcé cette liquidation ce matin pour Arjo Wiggins, papier couché. 800 salariés menacés dans 2 sites de la Sarthe. En tout, Alexandre Chassignon.
Ces mots de liquidation judiciaire, les salariés s'attendaient bien sûr à les entendre après 3 mois en redressement, de nombreuses fausses pistes de reprise. Et ces mots ont libéré des émotions longtemps contenues, des larmes, de la colère aussi face à ce qui est unanimement ressenti comme un abandon de la part des pouvoirs publics, abandon des salariés, abandon d'un territoire entier. La papeterie de Bessé-sur-Braye était le plus gros employeur à 30 km à la ronde. Abandon enfin d'une filière industrielle. Bessé était la seule usine en France à produire du papier entièrement recyclé. Les autres rajoutent de la pâte neuve. C'était aussi un leader de la carte à jouer en France et à l'export. La disparition de ses savoir-faire en même temps que l'usine, personne ne la comprend.
Merci Alexandre Chassignon pour ces précisions. 13h30 sur France Inter. Vous retrouvez Jean Lebrun dans quelques minutes, qui a pour invité Frédéric Martel, qui parle de son livre Sodoma sur l'homosexualité au Vatican. Encore deux titres de l'actualité et la parole sera évidemment à Jean Lebrun et à la marche de l'histoire. La grande foire aux idées fiscales qui continue dans le cadre du grand débat. Dernier petit papier sorti du chapeau, la fin de la redevance audiovisuelle. C'est ce que souhaite le ministre des Comptes Publics. La redevance est un impôt injuste, estime Gérald Darmanin, et cher à collecter, cher à percevoir pour le fisc. Il est couplé à la taxe d'habitation qui va disparaître. Supprimons-le aussi. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Alors la redevance, c'est 139 euros par foyer pour financer, nous, l'audiovisuel public. Si elle disparaît, par quoi la remplacer? Quelle piste?
Eh bien, plusieurs pistes pour remplacer cette redevance, même si rien n'est encore arrêté. Il y a une dizaine de jours, le ministère de la Culture évoquait avec certains syndicats celle d'un nouveau financement, peut-être assis sur les objets connectés ou bien les abonnés à un fournisseur d'accès. Autre idée, passer progressivement à un prélèvement universel pour tous, donc intégré, on l'imagine, à l'impôt sur le revenu. Mais le gouvernement ne veut surtout pas donner l'impression de créer un nouvel impôt. Après le mouvement des Gilets jaunes, le sujet est explosif. Se pose au passage la question de la pérennité de ce financement. Est-ce qu'on flèche cette enveloppe de plus de 3 milliards d'euros ou bien est-ce qu'on la remet au pot commun avec potentiellement à la clé des arbitrages budgétaires compliqués chaque année? Ce sera tout l'enjeu de ce dossier fiscal pas si simple à démêler alors que le gouvernement souhaite parallèlement réformer l'audiovisuel public. Un rapport sur cette évolution de la redevance audiovisuelle est attendu pour cet été.
Merci Claire Chaudière. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, la mort d'Agnès Varda. N'hésitez pas à aller sur franceinter.fr pour avoir toutes les informations, réécouter des émissions, des entretiens avec Agnès Varda sur France Inter, au micro de Laurent Delmas, au micro de Laura Adler. Et je vous rappelle donc que nous rediffusons l'heure bleue Agnès Varda, Laura Adler ce soir à 20h. Et puis il y a ce répondeur qui vous est ouvert, 01 56 40 68 68, pour laisser tous vos messages et hommages.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Sébastien Léas.
Déjà peu nombreux hier, les nuages se montrent encore plus discrets cet après-midi et c'est le soleil qui règne sur l'ensemble du pays. Des plages de la Manche à la Vendée, la Touraine, l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Le ciel peut temporairement être plus variable mais les éclaircies resteront belles. De petits cumulus vont aussi pousser sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le Massif central. Dans le sud-ouest, le bleu du ciel sera parfois légèrement voilé. En revanche, entre la vallée du Rhône, le Languedoc et la Provence, ainsi que le nord de la Corse, le soleil sera le seul occupant du ciel cet après-midi. Les températures maximales sont encore en hausse. Cet après-midi, il fait 15 degrés à Brest et Caen, 18 degrés pour Nantes, Lille, Metz et Toulon, 19 degrés à Paris, Mulhouse et Nîmes. On ira jusqu'à 20 degrés à Lyon, Cognac et Toulouse et 22 degrés pour Biarritz. Les côtes du Var et du Roussillon ainsi que de la Corse seront un peu ventées. Le vent sera aussi sensible en Lozère et le vent d'autant se lève dans son domaine.